l'occasion de la journée du 22 mars, dédiée à l'éducation aux médias et à l'information, nous sommes allés en visite à la résidence de l'ambassadeur de France en Tunisie pour lui poser certaines questions et pour en apprendre plus sur lui et sur ses attentes vis-à-vis de la journée.
Bonjour Votre Excellence, Monsieur Olivier Poivre d'Avoir. Alors vous êtes ambassadeur de France en Tunisie depuis maintenant septembre 2016. Tout d'abord, merci infiniment de nous recevoir aujourd'hui et de bien vouloir répondre à nos questions. Pour faire plus ample connaissance, est-ce que vous pourriez tout d'abord nous présenter votre parcours ?
Oui, d'abord bonjour, merci. Je suis à la radio, moi j'adore. Donc, ayant dirigé pendant 5 ans une radio publique, France Culture, je pense que vous faites un bon choix en faisant de la radio. Voilà. Écoutez, un parcours, c'est des hasards souvent, c'est des origines, c'est la Bretagne qui est mon pays d'élection, mais c'est une naissance à Reims, donc un sentiment un peu d'être exilé de l'endroit où je voulais être, c'est-à-dire au bord de la mer, donc une relation très forte à la mer. C'est d'ailleurs, je pense, une des raisons pour lesquelles je suis heureux aussi en Tunisie, c'est que vous avez une mer superbe. Et puis, gamin, des hésitations sur qui j'étais, le désir de faire de la politique, la philosophie, des études de philo, du théâtre en même temps, parce que j'avais vraiment le sentiment que il ne fallait pas choisir une seule voie, mais qu'il fallait profiter de cette période de la jeunesse, des 20 ans, pour faire plein de choses. Et puis les livres qui sont imposés à moi très tôt, parce que j'avais besoin d'écrire. Mon grand-père était poète et j'ai vécu dans les livres, y compris ma solitude d'enfant qui était le dernier de la famille. Et puis après, j'ai quand même réalisé qu'il fallait songer à quelque chose d'un peu sérieux et qu'on ne pouvait pas faire que ça, donc du journalisme, du travail dans des maisons d'édition. À 28 ans, je suis parti en Égypte comme attaché culturel, puis a commencé une vie de diplomate culturel qui m'a conduit à Alexandrie, puis après à Prague, à Londres, à Paris pendant 10 ans, où j'étais chargé auprès du ministère des Affaires étrangères de toute la politique culturelle française à l'étranger. Puis enfin, 5 années magnifiques à France Culture, une année comme ambassadeur chargé de l'attractivité culturelle, et puis depuis septembre, vous l'avez dit, à Tunis, voilà. Et tout ça, c'est une vie, ma double vie, c'est la littérature.
Alors, vous avez dit dans l'une de vos interviews, je ne suis pas un culturel ni un artiste, je suis totalement un diplomate. Pourtant, comme vous l'avez dit, vous avez été directeur d'une chaîne de radio, France Culture, vous avez écrit plusieurs romans et essais, et vous êtes connu comme un acteur culturel.
Ce que je veux dire par là, quand je dis ça, c'est que je suis totalement diplomate dans ma mission à Tunis, en ce que je représente les intérêts de mon pays, qui a pour projet de servir les intérêts de la Tunisie également, évidemment, puisque c'est important pour nous. Et donc cette mission diplomatique, elle n'est pas celle d'un artiste qui vient ici parler d'art et de culture, mais qui vient parler de sécurité, de défense, d'économie, d'éducation et aussi de culture d'ailleurs. Et donc c'est dans un cadre d'une mission politique évidemment, celle qui est de représentation d'un pays que j'agis. Et puis après, entre 1h du matin et 2h du matin, j'ai ma vie à moi qui consiste parfois à essayer d'écrire. J'ai beaucoup de mal, mais c'est vraiment pas l'objet de ma présence ici en tout cas.
Vous vous intéressez beaucoup à la jeunesse tunisienne. Quels sont donc les projets que vous avez mis en place ou que vous voulez mettre en place ?
La jeunesse, évidemment, la jeunesse, c'est central parce que c'est l'emploi. Et le scandale toujours dans les pays, c'est que, notamment quand il y a autant de diplômés qu'ici, c'est que des gens fassent des études, que des parents se saignent pour leur permettre de faire des études. Ils aient un bac plus 4 et puis qu'on aille leur dire, bah, écoutez, ça vous donne droit au chômage. C'est évidemment cette jeunesse-là qui m'intéresse. Alors, il y a plein de manières d'y contribuer. D'abord, dans notre domaine, c'est normal, les aider à bien maîtriser ou mieux maîtriser le français, qui est un outil économique important. Parce que quand on parle l'arabe, le français, voire en plus l'anglais, on est quand même beaucoup plus intéressant sur le marché du travail. Donc renforcer le soutien dans l'enseignement public, l'enseignement du français dans le primaire et le secondaire. Leur permettre d'aller dans des bonnes conditions s'ils le souhaitent en France. Près de 2 étudiants sur 3 tunisiens qui vont à l'étranger va en France, bien les orienter dans des filières, et puis mettre en place, c'est ce que nous sommes en train de mettre en place aujourd'hui, tout un réseau d'instituts qui s'appellent des IZET, des IUT, qui vont permettre de donner à beaucoup de jeunes qui n'ont pas forcément besoin de faire des études supérieures de 5 ans après le bac, mais qui, au bout de 2 ans, peuvent avoir, grâce à une formation diplômante, un métier technique pour lequel il y a une demande. Bien veiller à ce que notre offre éducative soit en faveur de ce qu'on appelle l'employabilité des jeunes. Voilà. Et puis après, ce qu'on fait avec les jeunes, c'est plein de folies, de la musique, des concerts, de la culture, des alliances françaises qu'on va créer dans le pays. C'est montrer que la culture, quand on a 17-18 ans, c'est une ouverture au monde, une ouverture à d'autres cultures que la sienne. Et donc je crois qu'on est le pays le plus actif dans ce domaine en Tunisie.
Pouvez-vous nous parler du projet Les Jardins de la Mer ?
Les Jardins de la Mer, c'est parce que, bon, comme vous êtes ici dans une maison assez belle, vous voyez, qui s'appelle la Résidence de France, vous n'avez pas tout vu encore, parce qu'il y a 2 parties. Il y a ce grand jardin, ce grand parc magnifique, avec ce palais, et puis de l'autre côté, de l'autre côté de la route, la seconde partie de cette résidence, qui a été séparée de la première dans les années 60, et donc un immense parc qui donne sur la plage publique de la Marsa, avec des ruines romaines, avec une petite maison très belle, un court de tennis, etc. Et comme je vis seul ici avec ma fille, je suis très heureux d'avoir un aussi bel espace. Bon, j'adore recevoir beaucoup de gens ici, mais j'ai pensé que ce serait bien de permettre à des jeunes, des lycées, des établissements scolaires, de bénéficier de cette immense parcelle qui est probablement unique aujourd'hui à la Marsa, et donc d'y avoir accès. Donc vous allez avoir, vous et d'autres, la clé de cet endroit où vous pourrez développer des projets liés à l'environnement, à l'écologie, au développement durable, vous retrouver, y faire des projets, voilà, ça sera votre jardin secret pendant vos études.
D'accord. Pour conclure, le 22 mars, c'est une journée dédiée à l'éducation aux médias et l'information sur le thème « D'où vient l'info ?». Que vous inspire ce thème et quelles sont vos attentes par rapport à cette journée ?
Bah, écoutez, mes attentes, elles sont déjà comblées par votre présence ici, par votre professionnalisme, y compris dans la manière de poser des questions, et par votre intérêt pour le sujet. Les médias, c'est quoi ? C'est exactement ce qu'on fait en ce moment. C'est-à-dire, vous avez préparé vos questions, vous aviez un but, vous voulez communiquer à un public plus large, puis vous faites appel à quelqu'un, voilà. Et puis donc là, il y a un échange. Ce qu'on a enregistré pourrait ne pas être diffusé, mais maintenant il va pouvoir l'être. Donc les médias, en gros, c'est la diffusion du savoir, de l'information. Le travail de la médiation, celui que vous êtes en train de... pour lequel vous travaillez aujourd'hui, c'est vraiment ce travail de vérification de l'information, de la source, de l'origine. Et à ce moment-là, vous pouvez publier, parce que vous êtes sûr de votre affaire. Le travail de médiation par rapport à la presse, il est très important. Parce que c'est la démocratie. Si les gens lisent quelque chose puis qu'ils se mettent à le croire, ça s'appelle de l'aveuglement. Donc il faut vraiment que les gens, quand ils aient une information, ils reçoivent une information, ils la vérifient toujours. Et ce travail est très important parce que c'est comme ça qu'en effet, une circulation large du monde des informations pourra se faire.
Dernière, quel type d'émission aimez-vous écouter à la radio ?
Écoutez, j'ai tellement écouté la radio, parce que quand on fait une radio, on écoute nuit et jour presque. Moi, j'aime dans la radio, pas tant la musique, parce que la musique, on peut la trouver sous toute autre forme. J'aime le rendez-vous avec quelqu'un à une heure précise. Et dans le fond, la radio, c'est ça, surtout quand elle est... accessible, pas uniquement par Internet, mais avec un vieux poste de radio, vous le branchez, parce que vous savez qu'à 7h23 du matin, il y a monsieur X ou madame Y qui va vous dire quelque chose. Ça sera toujours la même personne, du lundi au vendredi. Et pendant 3 minutes, il va vous parler de la géopolitique, de la politique, de l'économie, des sciences ou de la nature. Et j'aime ces rendez-vous, notamment les rendez-vous un peu plus longs. Dans la radio, c'est magique quand c'est une conversation. Et quand tout d'un coup, assez tard le soir, vous n'êtes plus seul parce que vous entendez 2 personnes qui se parlent, calmement, sans agitation. Je déteste la radio bruyante, agitée, animée, tout le bordel qu'on entend souvent sur les ondes. J'aime la qualité, j'aime les silences, j'aime le grain de la voix, et j'aime cette incroyable émotion qui existe. La radio, ça fait voyager. et ça tient compagnie.
Merci de nous avoir accordé cette interview et nous vous donnons rendez-vous le 22 mars.
Super, merci beaucoup à vous.